RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Un projet de mine de lithium devrait voir le jour dans l'Allier en 2028 et sur lequel le débat public s'est ouvert le 12 mars dernier dans un climat tendu. C'est l'occasion ce matin d'évoquer dans Je pense donc j'agis notre rapport aux ressources naturelles, notre manière de les exploiter, mais aussi des questions que ça pose quand on sait que ces ressources sont limitées et quand on connaît l'impact social et environnemental de leur extraction. Notez que dans la seconde partie de l'émission, on parlera d'une alternative à l'extraction des matériaux nécessaires, en particulier à la fabrication de nos smartphones. Et cette alternative, c'est tout simplement le recyclage, même le réemploi d'ailleurs de nos téléphones, bien sûr de tous leurs composants. Rendez-vous à 10h pour en savoir plus. Soyez les bienvenus en direct pour parler mine et extraction. Si vous habitez l'Allier, venez nous dire comment vous accueillez ce projet de mine. Dites-nous si vous y êtes favorable ou opposé, pour quelles raisons d'ailleurs. Et puis, si vous vivez ailleurs, peut-être y a-t-il près de chez vous d'autres projets d'extraction, comme par exemple en Moselle pour du gaz de couche ou en Bretagne, dans le Finistère, pour du lithium également. Et où que vous soyez, quelle est votre réflexion sur notre rapport, de manière générale, aux ressources naturelles? On vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23. Par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et bonjour Anne-Claire Léo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous, bon retour.
Merci beaucoup Anne, je suis ravie d'être de retour avec vous. Et ce matin, on s'interroge sur la manière dont nous exploitons les ressources naturelles et on y réfléchit à partir de ce fameux projet de mine de lithium dans l'Allier.
Oui, et si ce projet voit le jour et c'est bien parti, à partir de 2028, 34 000 tonnes de lithium pourraient être produites par an dans l'Allier, soit un quart de la production annuelle mondiale, de quoi alimenter la fabrication de 700 000 batteries de voitures par an pour équiper plus de 17 millions de véhicules électriques pendant 25 ans. Alors présentée de cette manière, la nouvelle pourrait apparaître comme une avancée écologique majeure et l'occasion de réduire la dépendance de la France à l'importation de terres rares venues d'Australie, du Chili, de Chine ou d'Argentine, qui en sont les principaux producteurs dans le monde. Et pourtant, le démarrage de la consultation publique sur ce projet de mine s'est fait sous haute tension. C'était le 11 mars dernier. D'un côté, on a la société Imerys qui porte le projet, qui prévoit l'exploitation du site, soutenue par le gouvernement, la région, le département, entre autres. Et de l'autre, des habitants, pour une partie d'entre eux au moins inquiets, et des associations locales de défense de l'environnement, et des citoyens inquiets, et même pour une part fortement opposés au projet. Alors, ce projet pose des questions localement, bien entendu. On va essayer d'y voir plus clair sur les risques qu'il présente. Mais de manière plus large, il éclaire la question de notre relation aux ressources naturelles et de la manière dont nous, les humains, continuons de les exploiter et avons même tendance à accroître cette exploitation, tandis que dans le même temps, nous avons désormais conscience que ces ressources s'épuisent. Alors on va se demander si et comment on peut sortir de cette quadrature du cercle, Melchior.
Et pour en discuter jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir trois invités ce matin.
Oui, je salue d'abord Leïla Mignano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, membre du collectif Investigate Europe, dont le site web d'investigation Disclose est le partenaire en France. Vous avez enquêté sur ce projet de mine de lithium dans l'Allier et on peut lire d'ailleurs votre article sur le site disclose.ngo. Merci d'être avec nous. Avec nous aussi Juliette Renaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de campagne à l'association Les Amis de la Terre France. Depuis 2008, vous travaillez sur le secteur extractif dans différents pays et plus particulièrement en Argentine, où vous avez vécu pendant 5 ans. Vous avez travaillé comme conseillère du prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel. Et j'ajoute que vous êtes diplômée d'un master en économie du développement de Sciences Po Paris. Et puis je salue enfin Maxime Combe. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, spécialiste des enjeux environnementaux, énergétiques, nationaux et mondiaux. Vous contribuez à plusieurs médias, notamment Basta, bastamag.net. Vous avez publié plusieurs livres, je mentionne le dernier en date, de 2022 au Seuil, Un pognon de dingue, mais pour qui ? L'argent magique de la pandémie. Merci à tous les trois d'être avec nous pour cette émission.
Et on va commencer comme chaque mardi matin avec la chronique Tout est lié. Et ce matin, nous accueillons Stécie Algrin.
Bonjour Stécie.
Bonjour.
Alors vous commencez par nous emmener de manière peut-être surprenante assez loin des mines et de la question de l'exploitation des ressources puisque vous nous parlez du film que vous avez vu ce week-end au cinéma.
Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. C'est le genre de phrase assassine qu'on utilise pour faire de l'esprit, pour signifier au monde la médiocrité à laquelle nous avons été durement confrontés. Mais que dit-on lorsque tout présageait, au contraire, un feu d'artifice et que la réalité s'en trouve nettement dégradée? Une bouchée qui laisse échapper un mouet? Un écrin qui s'ouvre sur un « Ah, sympa !» un livre de psychanalyse pour Noël. Plus proche de la pie que ce qu'il n'y paraît, les scintillements des choses sous les rayons du soleil peuvent nous laisser le planter là. Notre imagination galopant à toute allure, se permettant d'imaginer le plus beau des trésors. C'est que notre esprit est parfois cavalier, et ce week-end, je l'ai appris à mes dépens. 1h56 avec Cassandra Webb, une ambulancière de Manhattan. Un pouvoir, voir le futur. Une mission, protéger trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun d'un mystérieux adversaire qui veut leur mort. Pitch alléchant et casting de haut vol pour Madame Webb. Sydney Sweeney, que j'avais adoré voir vomir dans Euphoria. Dakota Johnson, une nepo baby à la répartie cinglante. Emma Roberts, Adam Scott. Bref, le casting faisait rêver et pourtant je comprends désormais pourquoi Sydney a préféré prendre discrètement ses distances, allant jusqu'à rappeler qu'elle avait juste été embauchée pour être actrice dedans. Ouais, c'était aussi nul que ça. Pas à mon goût, comme la glace à l'avocat. Pas fameux, comme la reconversion du Usain Bolt dans le foot. À croire que courir vite ne suffit pas. Qui me jetterait la pierre à l'heure du marketing de vouloir encore croire que combiner deux choses pleines de saveurs séparément nous conduirait sur l'exponentielle du kiff? Je suis naïve, je le sais, mais c'est que j'ai parfois eu d'excellentes surprises avec des chevaux sur lesquels je n'aurais pas parié un franc, comme le duo d'entre Philippe Catherine et Angèle, un bonbon sonore.
Alors vous nous amenez, je suis surprise Stécie, parce que vous nous amenez assez loin finalement là de la mine de lithium et de l'extractivisme.
J'y venais justement, à ce mot qui illustre pour moi la trahison ultime de notre langue. Figurez-vous qu'en tant que militante, l'activisme, je trouve ça fabuleux. Armé de soupe ou d'une plume, ceux qui s'engagent se font les remparts de notre monde face à la folie des puissants. Civiques, humains ou environnementaux, nos droits n'auront jamais compté de plus fervents défenseurs. Et puis il y a le mot « extra ». C'est super ou c'est dehors. Ce préfixe invite tantôt à l'optimisme, tantôt au regard vers l'extérieur. Extraordinaire. Mais voilà qu'extra rencontre activisme et que la magie se transforme en chaos. La paire accouche d'une bête affamée de richesses et de ressources, prête à engloutir la terre, peut-être nous avec. L'estomac gronde encore un peu. Qu'on lève un drapeau blanc, je vous en conjure, car si on nous avait bien prévenu que les mariages n'étaient pas toujours heureux, j'espérais qu'une thérapie avec un professeur de la décroissance pour rabibocher ces deux-là.
Merci. Merci à vous, Stécie Algrin, pour cette chronique. Tout est lié à réentendre en podcast juste après la fin de l'émission sur notre site rcf.fr. Et la semaine prochaine, c'est Alexandre Poidat que nous entendrons. Je rappelle que vous pouvez réagir en temps réel au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. En tout cas, Anne, sans mauvais jeu de mots, ça nous donne beaucoup de ressources pour démarrer cette émission.
Ben, je sais pas, on va voir, on va faire un petit tour de la table ou des micros plutôt. Je sais pas par qui on commence. Juliette Renaud, est-ce que ça vous inspire, cette chronique de Stécie Algrin?
Ça met au goût de l'émission ce mot extractivisme qui est sans doute un peu barbare pour beaucoup de monde et qui est en effet un des principaux maux de notre société aujourd'hui et on parle beaucoup de surconsommation, mais en fait le vrai problème c'est la surproduction et du coup j'espère qu'on va pouvoir en parler ce matin.
Justement, ce mot-là, Leila Emignano, au cours de votre enquête, vous l'avez employé, rencontré, parce qu'il témoigne d'un contexte qui est autre que celui de la mine dans l'Allier. C'est un mot qui nous vient plutôt d'Amérique du Sud, mais c'est un mot qu'on pourrait employer dans ce contexte-ci.
Alors, on n'est pas encore au niveau de l'Amérique du Sud, puisque effectivement, on n'a pas encore commencé à creuser, c'est-à-dire qu'il y a des trous d'exploration pour le moment. Mais on n'est pas au Chili, on n'est pas au Pérou, on n'est pas en Argentine à Échassières pour le moment.
Maxime Combes, un mot sur cette chronique qu'on vient d'entendre, ou peut-être sur la notion d'extractivisme?
D'extractivisme, simplement pour rappeler peut-être ce qu'elle caractérise réellement. L'extractivisme, c'est pas un mot synonyme d'extraction de ressources naturelles. L'extractivisme, c'était pour caractériser finalement un mode de production et d'extraction des ressources où l'objectif est d'alimenter les marchés internationaux et pas du tout d'alimenter les besoins locaux des populations qui vivent autour de ces mines d'extraction de ressources naturelles et principalement minières. L'extractivisme, ça a été utilisé par toute une série de gens en Amérique latine, d'économistes et autres, pour caractériser donc l'extraction finalement sans limite, avec des coûts environnementaux et sociaux prohibitifs, des violations des droits humains, le tout pour alimenter des marchés internationaux dont les besoins sont guidés par toute autre chose que la réalité des groupes sociaux qui sont soit impliqués dans l'extraction de ces ressources naturelles, soit victimes de l'extraction de ces ressources naturelles.
Justement, ça va être intéressant de se demander si le cas de la mine de l'Allier entre dans ce cas de figure-là. Je vous propose peut-être pour commencer de poser un peu ce qui se passe pour essayer de bien comprendre le projet qui nous donne l'occasion de faire cette émission. Alors, il s'agit d'un projet de mine de lithium dans l'Allier, sur la commune d'Échassières, pour l'extraction, avec un site de stockage à Saint-Bonnet-de-Rochefort et une usine de raffinage à Montluçon. Toutes ces communes-là sont dans l'Allier. Le projet est porté par la multinationale française Imerys, qui depuis 2005 exploite un gisement de kaolin sur le même site et prévoit d'investir 1 milliard d'euros dans ce nouveau projet prévu pour durer environ 25 ans. Un projet qui est soutenu par le gouvernement, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Allier, la commune d'Échassières et celle de Montluçon. Et en revanche, à Saint-Bonnet-de-Rochefort, le conseil municipal est défavorable à l'unité de stockage de lithium prévue sur cette commune. Et puis, des associations locales se mobilisent contre le projet. Le débat public a commencé le 12 mars. Il doit se poursuivre jusqu'en juillet. Mais quelle qu'en soit l'issue, cela ne devrait pas entraver le projet. Ses promoteurs étant seulement tenus de tenir compte des critiques. Alors, Leïna Minano, vous qui avez enquêté là-dessus, peut-être que vous pouvez, sans entrer dans tous les détails pour l'instant, mais nous donner d'autres éléments sur le projet et sur le site sur lequel il doit se développer.
Alors en fait, l'histoire minière d'Échassières et de l'Allier en général, elle date pas de ce projet-là. C'est-à-dire qu'auparavant, jusque dans les années 60, on a exploité le lithium déjà à Échassières. Donc aujourd'hui, ça vient... Pardon, pas le lithium. Exactement. Le kaolin, et on l'exploite d'ailleurs toujours le kaolin, mais donc l'histoire minière date de longtemps, et les derniers mineurs étaient jusque dans les années 60 très présents. C'était une ville minière. Et donc du coup, je pense que c'est aussi sur cette histoire-là que s'appuie Imerys et aussi le gouvernement pour obtenir le soutien d'une partie de la population. Puisque effectivement, vous dites qu'il y a des associations locales qui sont contre, mais il y a également une population locale qui est très favorable à l'arrivée des pelleteuses d'Imerys, qui voit les promesses d'emploi, qui voit les promesses de services publics poindre à l'horizon, alors qu'effectivement, depuis la fin de l'ère minière, il y avait moins d'habitants, moins de services publics qui étaient présents dans cette région.
Intéressons-nous un peu au lithium pour comprendre quels sont les enjeux. Juliette Renaud, qu'est-ce que c'est le lithium? À quoi ça sert? Lesquels de nos besoins il vient couvrir? Et quelle est l'ampleur de ces besoins?
Alors, principalement, le lithium aujourd'hui, il est utilisé dans les batteries, donc les batteries de nos téléphones portables. Et aujourd'hui, le boom, il est surtout porté par l'industrie automobile qui est en train de faire le passage à la voiture électrique. Le problème, c'est que son extraction, comme en fait toute extraction minière, a des importants impacts, que ce soit les impacts environnementaux au niveau local avec des risques de contamination, mais aussi la grande problématique de consommation d'eau, et sans parler en fait, ce qu'on oublie souvent aussi avec les projets miniers, c'est la consommation énergétique qu'on a besoin pour faire fonctionner la mine et les industries qui y sont liées.
Maxime Combe, sur ces enjeux globaux autour du lithium, qu'est-ce que vous ajouteriez?
Peut-être une surprise qui est de considérer que, de regarder avec circonspection les discours autour du lithium, conduisent à dire tout et n'importe quoi ou tout et son contraire aux décideurs politiques européens ou français. C'est-à-dire que les projets d'extraction de lithium en France sont généralement et en Europe sont généralement justifiés au nom de la souveraineté nationale ou de l'autonomie stratégique, pour reprendre le terme de la Commission européenne et des institutions européennes, selon lesquelles il n'y aurait pas d'alternative à l'extraction de lithium sur notre territoire national. Donc ceci fait sans doute partie de la discussion, mais que le même discours finalement est utilisé pour justifier des accords de libre-échange aujourd'hui avec les pays du Mercosur, avec le Chili, mais avec d'autres pays sur la planète, au nom du même principe, c'est-à-dire que il s'agirait là, toujours au nom de cette même souveraineté nationale, quand bien même il s'agirait d'aller chercher des ressources à l'autre bout de la planète, de mettre dans les meilleures conditions les entreprises européennes pour se fournir en lithium à bien des endroits de la planète. Et donc du coup, on a un discours qui justifie, enfin en gros, un même discours qui justifie à la fois l'extraction de lithium sur le territoire national et qui justifie la signature d'accords de libre-échange et l'extraction dont on sait que les conséquences sont déjà effectives d'un point de vue environnemental, social, violation des droits humains, sur la biodiversité et autres conséquences qui sont néfastes et nocives dans bien des pays avec lesquels donc nous signons ces accords de libre-échange pour extraire finalement et surtout exporter plus facilement ce lithium. Et à chaque fois, du coup, finalement, la question de nos besoins, la question de quelle consommation cela doit-il assouvir, passe à la trappe.
Allez, ce matin, non, je pense donc j'agis, vous l'entendez, nous parlons de notre rapport aux ressources naturelles et de notre manière de les exploiter. Avec vos réactions, vos témoignages au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et ce qui nous a motivés pour faire cette émission, c'est ce projet de mine de lithium qui devrait voir le jour dans l'Allier en 2028 et sur lequel le débat public s'est ouvert le 12 mars dernier dans un climat tendu. Si vous habitez l'Allier d'ailleurs, n'hésitez pas à témoigner, tout comme Jean-Luc qui nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Luc.
Bah écoutez, moi c'est très simple, c'est donc j'habite à quelques encablures de l'Allier et donc bah, je rappelle que l'usine est prévue pour être très très près de la forêt de Troncet qui a connu des chaînes datant de Louis XIV et certains ont même servi pour la construction de Notre-Dame. Alors au-delà de ça et du caractère naturel et patrimonial, moi, je me pose des questions purement industrielles. C'est tout simplement parce que on sait que l'extraction du lithium sans lui jeter la pierre, l'extraction du lithium ne peut pas être propre, consomme beaucoup d'eau, consomme beaucoup d'électricité pour l'extraction, je précise bien, et que donc on peut s'interroger. Moi, je suis à quelques encablures, hein, oui. Je suis à Châteauroux Métropole, où nous avons une volonté de soutenir l'hydrogène, et en particulier l'hydrogène. C'est quelque chose, quand on le fabrique soi-même, ça consomme de l'électricité, etc. Donc c'est pas forcément très vertueux. Par contre, on a découvert dans les Ardennes un gisement d'hydrogène natif pour lequel il existe, qui est le plus grand gisement en Europe, hein. Donc il pourrait ne pas servir seulement la France. Et puis donc, du coup, ce serait l'équivalent du gaz de lac qui s'est éteint, bien évidemment. La technologie de transport à hydrogène existe déjà très largement. On pourrait très bien voir dans l'Allier, au lieu d'avoir une carrière à ciel ouvert, même si le kaolin peut se poursuivre, il est là, je ne suis pas juge en la matière, et il pourrait très bien y avoir, par exemple, des bureaux d'études complémentaires pour l'hydrogène, oui. En sachant que les employés seraient certainement très contents d'être dans l'Allier au milieu de la nature.
Eh ben, merci beaucoup, Jean-Luc, pour votre témoignage ce matin. Juliette Renaud, je me tourne vers vous. Comment vous le recevez, vous, ce témoignage d'un habitant, hein, qui est plus ou moins directement concerné aussi par ce projet ?
Il y a deux choses, je pense. Il y a cette question des préoccupations légitimes, comme il est dit, pour les impacts locaux et notamment les impacts sur la biodiversité que peut avoir la mine de lithium. Et ensuite, il y a la question de sources alternatives. Là, on est question de l'hydrogène. Alors, je connais pas ce gisement d'hydrogène natif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'hydrogène est brandi par beaucoup d'industriels comme une solution miracle. Mais aujourd'hui, l'hydrogène, c'est à 95% issu des énergies fossiles, donc c'est pas du tout une énergie propre. Donc les questions qu'il faut se poser, c'est la question que posait aussi Maxime Combe tout à l'heure, c'est quels sont nos besoins. Donc aujourd'hui, il y a quelques années déjà, on sortait, nos amis de la Terre, on publiait un rapport qui s'appelait « Creuser et forer, pourquoi faire ?» parce que aujourd'hui, en fait, on se dit « il y a des ressources, s'il y a des ressources, il faut les extraire ». Alors que la question, c'est pas ça. La question, c'est d'abord comment aller vers plus de sobriété, donc réduire notre consommation de ressources. Et une fois qu'on a défini les besoins essentiels, eh bien on voit comment on y répond. Tout d'abord, non pas en extrayant de nouvelles ressources, mais via du recyclage, par exemple. Et ensuite seulement, on va regarder quelles nouvelles ressources sont nécessaires d'extraire. Aujourd'hui, par exemple, extraire du lithium pour faire des voitures électriques, toujours plus de voitures électriques, ça n'a pas de sens. En fait, on ne peut pas, si on veut avoir une vraie transition énergétique et écologique, on ne peut pas aller du tout voiture individuelle à essence vers un tout voiture individuelle électrique. Et donc, c'est ces questions qui doivent faire l'objet finalement d'un grand débat démocratique et qu'on n'a pas aujourd'hui.
Maxime Combe, sur ce que vient de dire Juliette Renaud, on voit bien à travers le témoignage de notre auditeur qu'en fait, la question... pour la plupart d'entre nous, comme un des mortels aujourd'hui, c'est encore de se dire comment on remplace quelque chose par autre chose et que la sobriété, finalement, elle rentre assez rarement dans l'équation. Alors, est-ce qu'en économie, la sobriété peut avoir une place ou est-ce que dans notre manière de penser l'économie aujourd'hui, bah, il n'y a pas de place pour la sobriété ?
Mais aujourd'hui, on a effectivement pris en compte, au moins dans le discours, et puis maintenant c'est même ça a été un slogan en 2022-23, même des politiques publiques, cette question de la sobriété. Et la réalité, c'est que ça ne l'est pas du tout transcrit, ni dans le droit international, ni dans les luttes d'influence géopolitique, ni dans les logiques et les principes qui organisent l'économie mondiale, et pas beaucoup plus, finalement, dans les réflexions, mais ça c'est un petit peu... finalement insignifiant, enfin, au regard des enjeux, c'est peut-être le moins important, mais dans les modèles économiques, dans les réflexions des grandes institutions économiques mondiales ou européennes ou nationales, c'est-à-dire qu'on considère d'une manière générale que un accroissement de ressources va améliorer et favoriser la croissance économique mondiale et donc le bien-être des consommateurs et donc le bien-être des citoyens. Et là, il y a toute une série d'équivalences qui sont extrêmement discutables, puisque l'on ne tient pas compte des conséquences néfastes de l'extraction de ces ressources, de leur utilisation, de leur consommation et donc des pollutions que cela engendre nécessairement. Et cela ne tient absolument pas compte du fait que aujourd'hui, pour toute une série de pays et donc toute une partie de la population mondiale, ce n'est pas nécessairement un accroissement de leur consommation qui va améliorer leur bien-être, leur bonheur ou autre. Et donc c'est cette logique-là qu'il faudrait effectivement inverser. Et je comprends bien l'auditeur qui finalement impacté par un projet local qui cherche à voir et trouver une alternative. Mais comme l'a dit Juliette Renaud, une telle discussion passe sous silence le vrai débat que nous devrions avoir, qui est le débat effectivement sur quels sont les besoins que nous voulons assouvir, quels sont effectivement donc du coup les impacts écologiques, sociaux et autres que nous sommes prêts à accepter pour cela, et quels sont finalement aujourd'hui ce qui pourrait être jugé du superflu et qui ne serait pas nécessaire d'assouvir. Pour aller un petit peu plus loin et être plus concret sur le lithium, sans doute avons-nous besoin d'extraction de lithium pour réduire notre consommation d'énergie fossile, électrifier une partie de nos modes de vie, de nos productions et de nos consommations. Mais si c'est pour produire du SUV d'une tonne et demie à deux tonnes qui va rouler dans les rues d'une grande ville de ce monde, ceci est tout à fait inutile et finalement pas acceptable. Donc c'est cela qu'il faudrait remettre sur la table, c'est cette discussion de quels sont nos besoins, comment on les satisfait et quelles ressources on va chercher pour faire cela en cherchant à minimiser les impacts de l'extraction de ces ressources.
On va continuer à explorer cette grande question. Puis avec vous, Leïla Mignano, on ira regarder de plus près aussi l'impact, notamment environnemental, de l'extraction de lithium potentiellement dans l'Allier. Mais Melchior, je crois qu'il faut qu'on s'arrête.
Oui, exactement. On va marquer une petite pause. Vous faites comme Jean-Luc, vous nous appelez si vous habitez l'Allier, nous dire comment vous accueillez ce projet de mine au 04 72 38 20 23. Et puis où que vous soyez, bien sûr, vous avez la parole pour en discuter avec nous et avec nos invités. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Allez, 9h30 dans Je pense, donc j'agis ce matin. On évoque notre rapport aux ressources naturelles, notre manière de les exploiter, mais aussi les questions que ça pose quand on sait que ces ressources sont limitées et quand on connaît l'impact social et environnemental de leur extraction. On continue d'en parler, Anne, avec nos trois invités jusqu'à 10h, Leïla Mignano, Juliette Renaud et Maxime Combe.
Oui, je voudrais qu'on revienne sur le site de l'Allier, donc à Échassière. Leïla Mignano, quand on parle de risques environnementaux, quels sont-ils? Si j'ai bien compris, ils sont liés notamment à l'exploitation antérieure du site.
Exactement, je pense que ce qui s'est passé, c'est que Imerys donc, était déjà propriétaire d'une carrière de kaolin qui se situe sur le site, donc le PER, le permis d'exploitation minière. Et donc du coup, ils ont décidé de creuser à cet endroit et sur les exploitations, en explorant, ils se sont rendus compte qu'il y a effectivement du lithium à cet endroit. Et donc du coup, ils ont été bien au-delà de la carrière de lithium. Ils ont creusé et effectivement, ils n'ont pas encore défini toutes les limites du filon de lithium aujourd'hui. Mais en tout cas, il se trouve qu'il y a un filon de lithium qui est présent aujourd'hui. Après, il faut remettre les choses à leur place. Quand on dit que la carrière des chassières va remplacer notre dépendance au lithium chinois, c'est faux et entièrement faux. C'est une toute petite carrière, c'est un petit filon de lithium, donc les conséquences vont être catastrophiques effectivement pour l'environnement, mais en revanche, on va pas du tout avec Échassière remplacer notre dépendance au lithium chinois. Je pense que ça, il faut le dire. C'est un argument qui est avancé de manière très importante par le gouvernement en disant maintenant, c'est la souveraineté, maintenant on va, grâce à Échassière et grâce à aussi leur projet de mine qu'ils veulent mettre en place en Bretagne, se défaire de cette dépendance. C'est faux. Ça, comme l'autre argument de dire que, avec Échassière, on va arrêter d'exploiter nos mines sur le continent africain ou en Amazonie. Aujourd'hui, Imerys n'a pas du tout l'intention d'arrêter d'exploiter ses mines et en Afrique et en Amérique latine. Il va le faire en plus à Échassière. C'est ça qui se produit. Mais effectivement, il y a un argument de culpabilisation et qui est employé de manière très très forte, y compris vers les militants du climat localement, qui est de dire oui, mais en même temps, aujourd'hui, il y a des personnes qui meurent dans les mines sur le continent africain, on détruit l'Amazonie, etc. Oui, Imerys est aujourd'hui mis en cause dans plusieurs affaires extrêmement sérieuses de pollution en Amérique latine, mais il n'a aucune intention de fermer les pelleteuses pour les rouvrir à Échassière. Je pense qu'effectivement, c'est deux arguments qui sont très pesants localement. Ce qu'il ne dit pas aussi, c'est qu'il a creusé sur un site qui est classé E par Géoderis, donc le spécialiste de l'après-mine. C'est-à-dire qui est extrêmement pollué à l'arsenic et au plomb. Et aujourd'hui, on est incapable de dire quelles vont être les conséquences de creuser à cet endroit. Qu'est-ce qui va se passer par rapport aux nappes phréatiques? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'air quand on va creuser dans cet endroit qui sont extrêmement pollués? Donc c'est la classification E, c'est la classification la plus sérieuse, la plus dangereuse pour l'environnement et pour l'homme. Donc c'est ce que révèle mon enquête pour Disclose Investigate Europe. Donc on montre que même dans leur rapport de risque, donc chaque entreprise, avant de demander un PER, et même tout au long du processus est censé produire un rapport de risque, donc de dire, voilà, là c'est risqué pour l'eau, là c'est risqué pour les habitants, etc. Ils n'ont même pas pris en compte ce rapport catastrophique de Géodéris.
Mais et comment, enfin, à vous écouter, on se dit, mais comment c'est possible, pardon, hein, c'est naïf peut-être, mais comment c'est possible que du coup l'autorisation d'exploiter soit donnée?
C'est très très surprenant et moi-même, je pense que en vérité, ils n'avaient pas forcément pris la mesure de ce rapport Géodéris en lançant le projet. Il y avait pas très peu de, quand on leur posait la question, il y avait très peu de réponses de leur part. C'est pas, ils disaient pas, on a pris la chose au sérieux, on va arrêter, etc. Pas du tout. J'ai l'impression que finalement, ça n'a pas été une question très importante, y compris dans le débat public. Par exemple, les militants sur place, notamment les militants de Stop Mine ou de Préservons la forêt des collectes qui font ce travail d'information, ont pointé le fait, par exemple, qu'il n'y avait pas les éléments sur la question de la consommation de l'eau dans le dossier. Voilà, donc aujourd'hui, le débat est ouvert. Mais par contre, Imerys n'a pas fourni le rapport sur la consommation de l'eau. Donc, il y a des trous dans le dossier. Il y a des trous sur le rapport Géodéris, il y a des trous sur la consommation de l'eau. Et pourtant, comme vous dites, le débat, a priori, va pas mettre des bâtons dans les roues à Imerys pour faire son projet.
Mais ça, Julia Drenot, ça peut paraître incroyable de se dire, là, il y a un débat public, donc il y a des associations mobilisées qui font monter des sujets. Il y a une enquête, l'enquête de Leila Mignano, il y a d'autres publications qui sont sorties dans différents médias. Comment c'est possible qu'à ce point, le débat démocratique paraisse finalement presque inutile dans le contexte? Est-ce que ça rejoint la manière dont ça se passe ailleurs, ce que vous avez pu observer ailleurs en France ou ailleurs dans le monde, quoi?
Oui, malheureusement, c'est non seulement incroyable, mais absolument scandaleux. C'est-à-dire que tant en France, où on pourrait se dire bon, on est dans un pays quand même avec des institutions solides, etc., que dans le monde entier, les projets extractivistes se font avec un simulacre de consultation. C'est qu'en fait, les consultations, c'est tout simplement des réunions où l'entreprise vient présenter le projet avec bien sûr tous les aspects positifs qui fait miroiter notamment la création d'emplois, alors que c'est des créations mineures, hein, parce qu'on est dans des industries qui sont très intenses en capital, et les populations ou les associations locales qui posent des questions mais auxquelles on ne répond jamais. Et juste là, voilà, on a coché la case consultation et on passe à autre chose, et ces consultations finalement ne sont pas prises en compte. On a des projets y compris en France qui ont été approuvés par l'État alors qu'il y avait 97% d'opinion négative des populations. Donc nous, c'est une des demandes qu'on avait il y a quelques années quand il y a eu les tentatives de réforme du code minier. Il faut savoir qu'en France, le code minier est vieux de 100 ans. Il y a eu des réformes partielles avec notamment la loi Hulot sur les hydrocarbures. Mais la question de la consultation, et nous, c'est pas seulement la consultation, c'est qu'il devrait y avoir un vrai consentement des populations, un droit au consentement libre et éclairé qui existe au niveau international sur le papier, je dirais, par rapport aux populations autochtones, mais qui pour nous, en fait, devrait exister déjà pas seulement sur le papier, mais vraiment respecté et pour toutes les populations. Et aujourd'hui, on n'a non seulement pas de droit au consentement, mais on n'a même pas un vrai droit à la consultation. Et donc ça, c'est scandaleux, et ça devrait, c'est une des choses qu'on dit, c'est-à-dire que le débat démocratique, il y a des débats sur des projets précis, comme ce projet dans l'Allier, et après, il y a le grand débat dont je parlais un peu plus largement, qui est comment est-ce qu'on planifie de façon globale, quelles sont les ressources dont on a besoin, et pour quels besoins, est-ce que c'est pour l'armement, est-ce que c'est pour la médecine, etc.
Juste avant de donner la parole à Maxime Combes, Leila Mignano, juste de quelques mots. Vous disiez tout à l'heure que parmi les populations locales, un pourcentage important, pour le coup, n'est pas opposé au projet, mais y adhère plutôt, notamment en raison de cet argument de la création d'emplois.
Alors, je peux pas chiffrer, je peux pas dire que c'est important, mais je pense que c'est très présent. Voilà, il y a une partie de la population qui est favorable au projet, puisqu'effectivement, il y a 1000 emplois qui ont été promis. Les édiles ont dit tout de suite, ça veut dire des ouvertures d'écoles, ça veut dire peut-être le bureau de poste, ça veut dire toutes ces choses-là en fait qui vont arriver sur place. Donc il y a un mythe, un rêve qui est entretenu très fortement par Imerys. Sauf que ce qu'on dit pas, c'est qu'il va avoir des emplois à haute technicité, donc beaucoup d'importations de main-d'œuvre qui vont venir d'ailleurs, en fait, qui sont pas forcément des gens du coin qui vont être embauchés, qu'au départ c'était 1000 emplois, puis après lors de la consultation c'était plus que 400 emplois, et puis après peut-être qu'on parlait d'emplois directs et indirects, donc du coup effectivement c'est pas aussi clair que ça. Et voilà, donc on en est là. Après, il faut aussi entendre ce discours, c'est-à-dire qu'il faut pas simplement dire qu'il y a une résistance locale et que tout le monde est en train de... Et je pense que c'est un souci depuis le début des associations locales d'essayer de gagner par l'argumentaire les personnes qui aujourd'hui seraient favorables. C'est-à-dire qu'elles ont organisé énormément de réunions sur place en faisant venir des experts, des spécialistes, etc. Mais bon, voilà. En tout cas, il y a toujours cette polarisation locale qui est très présente.
Maxime Combe, comment on fait pour sortir de... Enfin, on entend qu'il y a un vrai besoin de rénovation de la vie démocratique, de la participation des citoyens au débat, mais en même temps, c'est très compliqué de se faire une idée, j'imagine, pour des personnes qui habitent cette région-là, en entendant d'une part les arguments qui concernent l'environnement portés par les associations, et d'autre part, l'argument, ce qui est souvent un argument massue de l'emploi, et qui est un argument qu'on ne peut pas passer non plus par perte des profits. Enfin, comment on s'y retrouve quand on est un citoyen qui a envie de se faire un avis éclairé, de pouvoir peser dans le débat ?
Moi, c'est très difficile, ça c'est certain. Et vous parlez d'argument massue, que serait l'argument sur l'emploi. Moi, je pense que l'argument qui clôt le débat, en général, c'est l'argument qui est utilisé à la fois par les institutions européennes et par le gouvernement français, qui est de dire que au nom de la souveraineté nationale, au nom de l'autonomie stratégique, finalement, au nom de notre capacité à survivre en Europe ou en France, il faut exploiter ces ressources-là. Ça, c'est une façon de clore la discussion, d'empêcher un débat sur ce qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, quels sont nos besoins et quelles sont les ressources pour les permettre. Et donc, dès lors, ensuite, quand vous êtes au niveau local, puisqu'il n'y a pas de débat général sur et politique, finalement, au sens noble du terme, de là où on veut aller collectivement, eh bien, vous en être réduit à essayer de vous débattre entre, effectivement, cet argument massue sur l'emploi, et des injonctions totalement contradictoires qui rendent extrêmement difficile un débat serein. Et le débat sur la mine de lithium dans l'Allier ne devrait pas avoir lieu au plan local. La question qui est posée aujourd'hui est celle de ce début du 21e siècle. C'est quel est notre modèle de développement ou quel est notre modèle économique? Comment fait-on pour aller là où on veut aller, c'est-à-dire avec une bien plus grande sobriété dans l'usage des ressources, au nom du réchauffement climatique, au nom de la protection de la biodiversité, mais aussi éventuellement au nom d'une moindre pollution en général et d'une meilleure santé des populations, d'une meilleure agriculture, d'une moins grande dépendance à l'extraction de ces ressources naturelles. Ressources naturelles qui, à court, moyen ou long terme, sont nécessairrement finies, et donc du coup avec une exploitation qui ne peut pas être pensée ad vitam aeternam. Et donc c'est toutes ces questions-là dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, et plutôt que d'organiser ce débat-là et donc de construire ce que on pourrait appeler effectivement une planification des besoins et des productions pour les satisfaire, eh bien on laisse chacun et chacune, individuellement ou collectivement, se débattre dans ces contradictions et dans ces injonctions contradictoires en leur disant bonne chance. Bah, tant qu'on fonctionnera comme cela, le débat local sera nécessairement de mauvaise qualité et générera beaucoup de frustration et d'incapacité à se sentir partie prenante d'un même projet. Et au niveau national, il y a celles et ceux qui fermeront les yeux sur la réalité de nos besoins en ressources naturelles aujourd'hui pour satisfaire un système économique tout à fait insoutenable, et celles et ceux qui crient pour une transformation de notre modèle économique sans que finalement cela n'aboutisse. Donc voilà, on est dans cette situation-là et il faudrait en sortir. Et en sortir par le haut plutôt que laisser chacun se dépatouiller comme il l'entend.
Hervé nous a rejoint au 04 72 38 20 23 depuis la Loire. Bonjour Hervé.
Bonjour.
C'est à vous.
Oui, j'ai des remarques à faire. Donc d'abord, j'ai entendu que l'hydrogène n'était pas une énergie propre, à part d'un de vos intervenants. Il est vrai qu'on est au début de ce phénomène, hein, de l'utilisation de l'hydrogène. Donc dire que c'est pas propre, évidemment, c'est une absurdité, puisque en fait on a aujourd'hui pas assez d'électricité pour en produire, alors qu'on a des moyens de faire d'électricité à beaucoup moins cher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on va extraire du lithium, donc ça va justifier le fait que on va faire plus de voitures électriques, donc on va devoir faire plus de réacteurs nucléaires. Voilà, Monsieur Macron, tout à fait. Partant pour augmenter notre parc nucléaire, voilà, au lieu d'essayer de voir, comme le dit votre intervenant d'avant, qu'on vient de le dire, c'est que on n'est pas du tout dans cette optique-là. Dans 50 ans, vous aurez un village à Échassières où on fermera l'école parce qu'on aura fini d'exploiter le lithium et ce sera devenu un village fantôme. Mais il y aura sûrement un bel hôpital à côté parce qu'il faudra mettre un hôpital avec un service oncologie, voilà, comme on peut le voir aux États-Unis où dans l'extraction du gaz de schiste, on a plein de gens qui ont chopé tout ce qu'on peut avoir, et puis l'eau noire qui sort des robinets. Enfin, voilà. Je vais vite parce que je sais que le temps est court, l'extraction de l'uranium au Kazakhstan, c'est exactement la même chose. Hein, je vous le dis tout de suite, allez voir sur le site de l'AIEA.
Merci beaucoup Hervé pour votre appel ce matin dans Je pense donc j'agis. Juliette Renaud, pareil, avec les propos d'Hervé, il a raison de souligner tout ça.
Il a complètement raison, c'est-à-dire que en effet, en France, l'électricité est principalement de l'électricité nucléaire, et là, on est aussi sur une industrie hautement polluante, avec souvent une partie de cette industrie qu'on oublie parce qu'elle n'est plus sur le territoire national, même si on a voulu en rouvrir aussi, c'est les mines d'uranium qui aujourd'hui sont à l'étranger, mais avec des impacts considérables, et les impacts en France avec non seulement les dangers d'accidents, mais toute la question aussi des déchets nucléaires. Et donc, certains de vos auditeurs connaissent peut-être tout le débat autour du site d'enfouissement de déchets à Bure dans l'est de la France. Et donc, c'est toutes ces questions qu'on ne se pose pas aujourd'hui avant d'ouvrir des nouvelles mines ou avant de construire des nouvelles centrales, qui en plus, l'autre chose du nucléaire qu'on dit peu, c'est le coût de ce nucléaire et le coût en argent public.
J'ai envie de vous demander, Leïla Mignano, peut-être une question, vous poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à enquêter là-dessus? À votre avis, à quoi ça sert, en fait, de faire ça, de mener une enquête comme celle-là? Ouais, qu'est-ce qui vous a conduite à enquêter là-dessus?
En fait, la raison, elle est arrivée après. Par exemple, quand on voit ce qui s'est passé avec la mine de Salo dans le sud de la France, donc aujourd'hui, il y a quelques semaines, les habitants ont réussi à obtenir la suspension et du PER, en fait, du permis d'exploitation. En dépit du soutien du gouvernement, en dépit de la mobilisation de la région, etc., les associations locales sont parvenues en s'appropriant le sujet, notamment les questions techniques, les questions de rapport de risque, etc., à faire annuler le PER, donc le permis d'exploitation et de recherche, et à préserver leur mode de vie. Et notre travail en tant que journaliste, c'est potentiellement de fournir les arguments pour que demain, en fait, les personnes puissent se saisir de cette question qui est toujours présentée comme quelque chose d'intouchable, de technique, de quelque chose qu'ils n'arriveront jamais à maîtriser. Eh bien, en fait, peut-être qu'un jour, ils auront ces arguments techniques. Et moi, il y a quelque chose que je voudrais souligner aussi sur ça, c'est que à Échassières, les associations locales se sont senties très abandonnées, justement, par les associations nationales. Elles ont cherché à obtenir le soutien des grosses ONG environnementales et elles ont senti un malaise par rapport à ça, puisqu'effectivement, le lithium s'est présenté quelque part comme une énergie alternative au pétrole. Et donc, du coup, à chaque fois qu'elles allaient chercher un soutien des grosses ONG environnementales, il y avait un malaise. Et on le voit très bien. Enfin, le débat, comme le soulignait Maxime Combes, n'a pas atteint l'échelle nationale. Alors que c'est un questionnement pour tous et pour toutes sur demain. Et donc, du coup, aujourd'hui, le débat, là, on l'a entendu un petit peu au moment de l'ouverture du débat, mais ça fait un an que la mine a été annoncée. C'est depuis octobre, en fait, de l'année d'avant qu'on sait que cette mine va être ouverte. Et pourtant, on en discute très peu à l'échelle nationale. Et donc, du coup, effectivement, il n'y a pas cette contestation du PER qui a existé à Salo, qui a eu succès aujourd'hui. Il y a effectivement ces débats qui ont lieu et ces associations locales qui n'ont pas de relais national. Enfin, se sentent qu'on n'ont pas beaucoup de relais national.
C'est intéressant parce qu'on a avec nous Juliette Renaud qui est oui. membre d'une grande association nationale, les Amis de la Terre. Comment vous réagissez à ce que dit Leïla Mignano?
Alors bon, nous personnellement, on n'a pas été contactés par les associations locales dans l'Allier. On n'a pas non plus de. Nous, on est une fédération, hein, les Amis de la Terre, au niveau français, mais aussi au niveau international. On n'a pas de groupe local dans la zone. Par contre, c'est un débat qu'on a eu aussi avec nos groupes locaux, parce que par exemple, à l'autre bout de la chaîne, on a un groupe local à Dunkerque, et là, c'est là où vont être construites aussi des méga factories pour ces batteries finalement. Mais il est vrai que il y a des grosses associations qui ont du mal à se positionner sur le lithium. Et c'est pas nouveau. Nous, ça fait très longtemps que ce soit sur le lithium. Par exemple, il y a pas mal d'années, on organisait les prix Pinocchio et on avait justement mis en avant la question d'un projet de mine de lithium de Bolloré et Ramet en Argentine, avec des questions d'accaparement des terres et des questions des mêmes impacts environnementaux et sociaux. Et de la même manière, on soutient une action en justice contre EDF pour l'accaparement de terres au Mexique pour un projet éolien. Donc il y a souvent des projets, que ce soit renouvelables ou des projets comme le lithium, où on met en avant la question de la transition énergétique, mais il faut regarder quels sont les impacts réels de ces projets. Donc nous, en tout cas, en tant qu'Amis de la Terre, on n'a jamais eu de problème pour se positionner sur ces projets et sur le lithium en particulier. Dès l'annonce de la mine l'année dernière, on s'est prononcé dessus parce que c'était assez scandaleux. En fait, on avait une annonce d'une mine sans aucun élément dessus et déjà le gouvernement qui le soutenait. Mais on voit en effet ce malaise qui existe de certaines associations qui se sentent coincées entre la sortie des énergies fossiles et des énergies comme des mines comme le lithium.
Une réaction, celle de Bertrand au 04 72 38 20 23. Bonjour Bertrand.
Oui, bonjour. Oui, je voulais vous parler donc de cet extrait de minéraux chez nous et de l'opportunité d'extraire ces ressources naturelles. Moi, je voulais parler des métaux rares en Afrique, essentiellement à l'extrême est du Congo, où les grandes puissances que nous sommes exploitent de façon sauvage, avec force massacre depuis 25 ans, des métaux rares qui servent pour nos téléphones, qui servent pour nos batteries, les batteries électriques, et ainsi de suite. Et tout ceci avec une complicité intermédiaire qui est celle du Rwanda. Bon, on sait que M. Blair est un grand ami de M. Kagame, et tout ceci est organisé, mais avec du massacre de très très grande ampleur. Le pape voulait y aller il y a quelques mois en arrière, il n'a pas pu aller dans cette région, il était quand même allé au Congo, il n'a pas pu aller au Kivu. Il faut vraiment qu'on s'intéresse sur qu'est-ce qui se passe dans cette région, parce que les populations sont massacrées pour notre profit, au profit de besoins que nous avons, nous, de ces métaux rares.
Eh ben, merci beaucoup Bertrand pour cet éclairage, et c'est intéressant de voir aussi un petit peu ce qui se passe ailleurs qu'en France. Maxime Combe, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il a raison, Bertrand, de dire que, alors en prenant l'exemple du Congo, mais il y a des massacres à notre profit en termes d'exploitation de métaux rares qui nous servent à nous tous les jours?
Oui, mais en prenant peut-être un peu plus de champ, excusez-moi, et au-delà des métaux rares, je veux dire, il faut bien comprendre que cette extraction des ressources naturelles, et notamment minière, mais ça s'observe également en matière énergétique et de plus en plus en matière agricole par ailleurs, avec la spécialisation de chacun des pays dans une, deux, trois, quatre productions exportatrices, est en fait très largement empreinte d'un régime finalement qui s'apparente à du néocolonialisme. C'est-à-dire que nos pays occidentaux, les pays les plus puissants de la planète, ne sont plus peut-être directement présents, et encore tout cela est discutable. En tout cas, il y a eu l'indépendance d'une grande partie des États dont on parle aujourd'hui. Mais la relation sur l'extraction, la production et le commerce des matières premières, un régime très néocolonial, en fait, où nos grandes multinationales, qui sont celles soit de l'extraction, soit celles du commerce mondial de ces ressources naturelles, finalement, fonctionnent relativement dans l'impunité la plus totale. Des populations locales qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits, qui n'ont pas beaucoup de ressources, y compris en termes de droit international, de droit local ou de droit national, pour faire valoir leurs droits. Et ça, d'ailleurs, c'est un enjeu majeur des années à venir, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de traités, soit de commerce, soit de protection des investisseurs qui protègent ces acteurs économiques que sont les entreprises multinationales. Au niveau international, il n'y a pas un seul traité international qui donne accès à la justice des populations locales victimes de l'extraction de ces ressources naturelles. Et du coup, on a du mal à en sortir. Il y a eu des tentatives pour des mines responsables, pour des choses de ce type-là, mais on n'en est pas sorti. Et donc, du coup, effectivement, nos modes de consommation en Europe, nos modes de production d'une manière générale, si on intègre donc du coup les usines du monde qui sont en Asie, sont très fortement dépendantes de ces ressources minières, de ces ressources énergétiques, qui sont en général exploitées. Et c'est là où on peut parler d'extractivisme, pour faire une boucle avec ce qui a été dit en début d'émission, qui sont généralement exploitées sans tenir compte des besoins, des droits des populations locales, sans tenir compte des besoins des économies régionales ou nationales de là où se déroule l'exploitation, mais qui sont extraites pour unique et seule fin l'alimentation de ces marchés internationaux pour satisfaire nos modes de consommation et nos modes de production totalement insoutenables. Et donc c'est de déconstruire ce régime néocolonial autour des ressources naturelles et un enjeu majeur pour nous toutes et tous en ce 21e siècle, mais c'est un défi extrêmement difficile. Et donc, du coup, tout ce qui ne permet pas d'organiser le débat sur ces enjeux-là, y compris donc du coup l'extraction de ressources naturelles sur le territoire national, et que cette invocation permanente soit à l'emploi, soit à l'autonomie stratégique ou la souveraineté nationale, tout ce qui nous permet pas d'avoir un débat serein sur ces questions-là, ne nous permettra pas de déconstruire ce régime néocolonial d'extraction des ressources naturelles.
Je voudrais qu'il nous reste moins de 3 minutes. On va essayer de terminer en faisant un tour de table pour que chacun d'entre vous puisse peut-être nous donner quelques clés, donner quelques clés aux auditeurs, auditrices, citoyens, citoyennes qui se disent OK, j'ai entendu tout ça, j'aimerais bien contribuer au débat public là-dessus et à faire en sorte qu'on ait une relation plus ajustée aux ressources. Mais comment je fais en fait? Par où je commence? En 30 secondes chacun, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces personnes qui nous écoutent, Leïla Mignano?
Si vous habitez l'Allier, approchez-vous des deux associations qui aujourd'hui se battent contre cette mine, donc qui sont Stop Mine 03 et Préservons la forêt des collègues, dont ils ont un groupe Facebook notamment très actif sur le sujet. Donc ça, c'est si vous êtes habitant de l'Allier. Difficile à dire, parce que au niveau national, informez-vous, puisque moi, les derniers sujets que j'ai pu voir sur le lithium, malheureusement, et on a pu le voir avec la personne qui parlait avant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est le même argument. On va extraire du lithium à Échassière pour protéger les personnes sur le continent africain. Ce n'est pas vrai. Imerys va continuer à exploiter le kaolin au cœur de l'Amazonie. Ils n'ont pas arrêté puisqu'ils ont commencé à faire à Échassière.
Juliette Renaud, vraiment en 30 secondes?
Oui, bah, tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. En effet, je rebondirai sur informez-vous, méfiez-vous quand on vous parle d'énergie propre, d'énergie magique, de solutions alternatives, parce que souvent, en fait, ça cache beaucoup de nouveaux dégâts, les illusions technologiques. Et du coup, c'est réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour réduire notre consommation, mais surtout interpeller les gouvernements, parce que c'est surtout des industries et des gouvernements qu'on a besoin de changement pour avoir ce changement de modèle économique, finalement.
Maxime Combe, vraiment en trois mots.
Ah, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et bon courage à toutes et à tous. Notre défi est immense.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission et d'être venus ce matin éclairer ces enjeux. On a fait commencer, mais ça aura donné envie aux auditeurs et auditrices de poursuivre, de continuer à s'informer en nous écoutant, en lisant l'enquête de Leila Mignano notamment, et puis plein d'autres choses à découvrir.
Merci beaucoup Anne, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueillait ce matin, et Leila Mignano en studio. Dans un instant, on va parler du recyclage de nos téléphones. À tout de suite.